Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci.
Alors, l'intention qui vient juste de naître, de surgir en moi, là, c'est... En fait, c'était plus comme la... Ça a pris la forme un peu d'une question. C'était... quelque chose comme... c'est pas une question, c'est un désir. On va y arriver. Tranquillement. Oui, je me disais, j'espère que, puis peut-être que c'est mon boulot, j'espère que les gens peuvent voir pourquoi on ferait ceci. Comme pourquoi on ferait ceci, cette déconstruction, ce travail ardu, ce questionnement du jeu. Hein, parce que ça peut avoir, je ne sais pas de quoi ça a l'air de votre côté de la réalité, mais j'imagine que ça pourrait avoir l'air d'un trip un peu... intellectuel ou étrange, mais peut-être pas, peut-être que ça résonne fortement. Mais c'est ça, je me disais, donc c'était un peu ça, là, j'étais assis là, puis je me disais, oui, c'est ça, ce serait bien qu'on sache pourquoi on fait ça, ou que moi je tente de faire le lien au moins, si c'est pas clair pour nous. Et donc, comment ça m'apparaît juste là, puis je pense parce que c'est un mot qui a été utilisé aujourd'hui dans un des groupes, c'est comme si on allait, on était en fusion avec chaque événement, chaque chose qui arrivait, puis nous on essaie de voir si on peut décoller un peu de cet agrippement ou identification ou fusion. Puis donc, je pense que c'est un peu bancal comme façon de le mettre en mots, mais c'est comme ça que ça m'apparaît juste là maintenant. Est-ce qu'on peut aller décoller un peu les choses de cette identification, agrippement Oui, puis on le fait de plusieurs façons, peut-être en essayant de reconnaître de façon pénétrante, vipassana, de la nature impermanente des choses, pour que la prochaine fois, quand on sera dans une situation, pas qu'on puisse se dire... Moi, je pense pas que ce soit du coaching qu'on fait ici, là, tu sais. Genre, ça va passer, Pascal, ça va passer. C'est pas tellement ça, c'est une connaissance intérieure, profonde, que voici, ce moment existe, véritablement ce moment, et tout à l'heure, il n'existera plus, là. Alors que dans la méprise, dans la confusion, pour moi, c'est comme ça, donc ça va être comme ça tout le temps, c'est la seule chose, c'est ce qui se passe. Je ne sais pas si j'arrive à bien le... Mais là, voici, c'est ça, ça vient de mal tourner, ça tourne. Puis d'avoir cette capacité de se décoller de ce qui se passe un peu avec sagesse, peut-être avec bienveillance, avec compassion... avec une conscience accrue de la nature d'apparence, d'apparition des choses. On a parlé cette semaine ici de perception, de mirage, de comment ça apparaît. Puis donc d'être conscient de ça aussi, de formation. Ah tiens, ceci a pris forme. Je ne sais pas quoi, la merde vient de frapper le ventilateur. comme on dit en anglais. Et voilà, c'est ce qui se passe. Ça vient de se former comme ça. Waouh, tout s'écroule ou tout éclate. Voici, on est dedans. Puis peut-être une autre façon d'en parler, ce serait une autre façon d'être en lien, une autre compréhension des choses, une autre façon d'être en lien. C'est peut-être avec curiosité, oui, avec bienveillance, avec compassion. Pardon, mais aussi avec curiosité. Ah, voilà, qu'est-ce que c'est intéressant. Ça ne se passe pas comme j'avais prévu. Très intéressant. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a comme opportunité ici? Pour moi, c'est un peu ça que j'apprends dans la pratique. Bon, parfois, je l'oublie complètement. Et là, je suis complètement collé à la situation avec mon opinion, ma rigidité, etc. Mais quand ça fonctionne dans ma vie, la pratique, je le vois qu'il y a une curieuse... Ah! Comment est-ce que ça peut devenir une opportunité pour mes valeurs? Et pour moi, c'est ça la pleine conscience. C'est quand il y a cette conscience-là, dans le sillon de cette pleine conscience, il y a plein de qualités qui sont ouvertes. C'est comme un portail. Alors, quand il y a la pleine conscience, tout à coup, je peux me rappeler de l'intégrité, de l'honnêteté, du respect, de la créativité devient accessible. Plutôt que, ah, c'est pas comme ça que ça devait se passer. C'est, attends, comment ça se passe? Puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Comme ça. Et donc, avec cette présence accrue, c'est comme si... Bon, j'improvise, là. Vous me voyez, je travaille autour de l'affaire, mais c'est toujours un peu comme ça. Mais des fois, c'est plus palpable pour moi que d'autres fois. Mais là, je pense à une conversation que j'ai eue, je pense, il y a quelques mois, moins d'un an, avec Gil Fransdal, qui est un enseignant que moi, j'aime énormément, Gil. Et on ne s'était pas vus depuis quelques années, puis on discutait ensemble. Puis il me disait, Pascal, qu'est-ce que t'aimes dans le fait d'enseigner? Parce que c'est ça... J'ai pratiqué beaucoup avec lui plus tôt dans ma pratique, puis aussi quand j'étais formé pour être enseignant. Puis là, il y avait un gap, un petit espace là, de presque une décennie. Il me disait, comment ça va l'enseignement? Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que t'aimes quand t'enseignes? Pourquoi t'aimes enseigner? Et je disais, donc, puis aussi c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, donc c'est quand quelqu'un comme ça pose cette question-là, tout à coup ça vient là, direct au cœur. Oui, et ce que j'avais envie de lui dire, puis que je lui ai dit, c'est, Gail, il y a quelque chose qui m'impressionne vraiment beaucoup, c'est quand il y a cette présence, et puis là, je cherchais, comme je cherche là un peu les mots, tout ça, je dis, c'est comme si les gens étaient, bon, la conversation avait lieu en anglais, mais c'est comme si les gens devenaient prégnants, pregnant, prégnants, enceints. Les gens, enceintes, prégnants de sagesse. Et là, tout à coup, une feuille tombe, puis quelqu'un comprend quelque chose. Ou moi, je dis quelque chose, et la personne après va me dire, Pascal, quand tu as dit ça, merci beaucoup d'avoir dit ça. Puis j'écoute la personne qui me dit ce que j'ai dit, mais c'est beaucoup plus profond ce qu'elle a compris que ce que j'ai dit. Puis je disais, ça m'ébobie, ça me bouche bée, ça me touche profondément, puis je vois ça souvent, que quand les gens pratiquent quelques jours, il y a un moment où tout à coup, puis ils vont avoir une compréhension psychologique, de que, ah, tout à coup, ils vont revoir un événement du passé, mais là, avec la possibilité peut-être de prendre certaines responsabilités ou de s'accompagner, comme ça n'a pas été fait au moment où ça a eu lieu, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui va être une compréhension psychologique ou quelque chose va s'ouvrir sur un sens. Les gens vont l'exprimer dans leurs mots très personnels, mais on va reconnaître quelque chose de... comme des enseignements classiques, là. Donc, je disais ça à Gil, et Gil disait, ah, c'est génial, Pascal, c'est tellement beau ce que tu dis, parce qu'il y a un terme en pali, est-ce que je vais bien le dire, Yono Manasikara, qui est souvent traduit par wise attention, ou une attention sage. Mais il dit, en fait, ce mot-là, si on le traduit presque plus littéralement, c'est en anglais, c'est womb, donc l'antre, ou le... Comment on le traduirait en français? Parler direct vers utérus. Ça fait un petit peu clinique. Mais le ventre. Mais c'est là où il y a la création, la gestation, puis la naissance. Là,
je pense que le nid.
Le nid. Ouais. Oui, disons le nid. Merci. Alors, il disait, oui, ce terme-là, d'attention sage, c'est exactement, tu le décris très très bien, c'est que tout à coup, cette attention fait que ça va déborder là, la sagesse, ça va sortir enfin. La sagesse qui n'était pas accessible dans toutes nos habitudes mentales. Nous, tout à coup, on peut voir les choses plus clairement ou agir avec plus de soin. Alors qu'habituellement, dans l'habitude, on aurait été un peu brusque peut-être. Mais là, s'il y a cette attention-là, on va faire attention. On va faire attention. Et donc, c'est ça. Pour moi, c'est ce qu'on fait ici. Puis, hier, par exemple, on pratiquait particulièrement à travers un exercice l'équanimité, mais c'est ce qu'on a fait toute la semaine. Ah tiens, une marche, un truc, ça me tente peut-être pas, mais je vais y aller voir, est-ce que je peux demeurer en équilibre, malgré le fait que c'est pas exactement ce que je veux ressentir ou vivre, ou que j'aurais choisi, puis est-ce que je peux le faire avec cœur, avec soin. Puis donc, on développe cette capacité-là d'être... en lien avec les choses d'une façon saine, respectueuse. Et il y a quelques années, on avait fait un programme à Spirit Rock en Californie où une centaine de personnes qui s'étaient inscrites pour un programme de 2 ans. Et là-dedans, ça venait avec, je pense, 5 retraites sur 2 ans. Donc, toujours le même groupe de personnes. Il fallait que les gens aient pratiqué un nombre d'années, là, ou fait un nombre de retraites. C'était pour des gens avec un certain niveau d'expérience, sans que ce soit énorme, que ce soit pas une initiation pour eux, mais qui aient pratiqué peut-être depuis 5 ans, en fait, déjà, peut-être, je me souviens plus combien de jours de retraite, ou quelque chose comme ça. Et donc, et mensuellement, il y avait des réflexions... des choses à faire, donc c'est un programme sur 2 ans, comme ça. Et à la fin du programme, à la dernière retraite, je pense que c'est ça, oui. En tout cas, à la fin d'une des retraites, moi je venais de passer une semaine avec Joanna Macy, qui est une militante, activiste, une enseignante bouddhiste, une académicienne aussi, une femme assez extraordinaire, qui maintenant, elle doit approcher, je pense, elle doit avoir 95 ans ou quelque chose comme ça, très, très vivante, encore beaucoup d'opinions, d'énergie, et qui fait un travail, sur le... Bon, elle est passée du nucléaire au changement climatique, ou à la crise climatique, et elle a toutes sortes de modalités très intéressantes. En tout cas, j'avais passé une semaine avec elle, puis j'ai décidé de faire un de ces exercices, de proposer un des exercices à ce groupe-là, donc qui à la fin de la retraite. L'exercice, c'est Joanna Macy qui l'a créé, mais fortement influencé par quelque chose qu'elle avait vu dans une communauté tibétaine dans le nord de l'Inde. Comment elle a appelé l'exercice, c'est la danse du démembrement de l'ego. Et ça consiste en ceci. Et c'est ce que j'ai fait avec les étudiantes et les étudiants, les personnes qui étaient les retraitantes et retraitants. Alors, on avait amené un paquet de trucs pour faire du bricolage. Petits morceaux de papier, toutes sortes de trucs qu'on avait trouvés pour faire du bricolage. Et l'idée, c'était... aujourd'hui, il y a la pratique, et il y a dans la salle, peut-être en bas, il y a une salle tout en bas, hein, je pense, ici. Imaginons, dans la salle en bas, on a mis tous les trucs de bricolage. On dit, aujourd'hui, toute la journée, vous pouvez aller à n'importe quel moment créer une statuette, poupée, sculpture, qui représente un peu les choses que vous avez vues en action chez vous, les traits de caractère, les états mentaux, les choses que vous avez observées, que vous avez vues apparaître ici, là, qui ont été révélées pendant la semaine, puis construisez soit en conceptualisant, ah oui, moi j'ai vu ça, donc je pourrais le rendre comme ça, l'exprimer comme ça, ou juste en travaillant avec la matière, voir qu'est-ce qui naît. Puis ça inclut prendre des choses à l'extérieur, roches, écorces, herbes, feuilles, etc. Et donc, et ce soir, on va faire un grand cercle et on va, ceux qui voudront, vont présenter leur ego. Et ça va être un spectacle grandiose. Ah, voici. Et donc, pendant la journée, les gens ont fait ça, sont allés voir, ah, j'ai vu ça chez moi, j'ai vu tel truc. Ils ont joué un peu avec la matière. Puis là, le soir, on a fait un grand cercle. Et en anglais, on dit show and tell. Alors, moi, je viens du monde du théâtre. Alors, je dis, il faut que ce soit extravagant. Quand vous venez, il faut... D'abord, il y a 100 personnes, alors... Partagez votre voix. Et là, c'est vraiment la célébration de l'ego. Alors, vous dites, voici le truc. Puis nous, on va, waouh, ouais, incroyable, etc. Et fait intéressant... Pour moi, c'est plusieurs des personnes qui sont venues. Tout le monde n'est pas venu. Là, ça a duré peut-être, je sais pas, 45 minutes, le petit rituel. Mais plusieurs des personnes qui sont rentrées dans le cercle étaient en fait des personnes introverties. Alors c'est une des choses, je me souviens, je me dis, ah, pour ça, j'aurais pas pensé que cette personne... Mais il y avait quelque chose comme le clown, le personnage, quelque chose d'autre qui... Il y avait comme une ouverture, là, on n'avait pas besoin d'être moi. Bon, ben ça, c'est moi. C'était un peu plus... D'ailleurs, avant ça, on avait fait une exposition. On a dit, tiens, on va tout monter en haut, puis on va tout mettre comme ça. Et c'était fascinant. Là, on se serait cru au Quai de Branly. Il y avait vraiment de tout. Là. Et c'était mystérieux. On ne pouvait pas expliquer les choses. Mais après, les gens, quand ils sont venus, c'était très beau parce que les gens arrivaient. Là, ça faisait une semaine, peut-être plusieurs retraites, qu'ils observaient des trucs. Et là... Je me souviens, il y avait par exemple quelqu'un qui avait c'est comme une masse avec beaucoup, beaucoup de rubans par-dessus. C'était plein de rubans. Et il disait, voici, ça c'est mon ego. Et il disait quelque chose comme, je suis caché en dessous, vous ne me verrez jamais, je suis protégé par... Mon doctorat en ceci, et j'ai deux enfants qui sont aussi à l'université, et j'ai démarré une fondation, et je suis caché derrière toutes ces réussites, et vous ne me verrez jamais. Et là, tout le monde criait, ah, reste caché, surtout, ne sors pas, incroyable, magnifique, magnifique ego, comme ça. Et après, à la fin, les gens pouvaient, s'ils voulaient, détruire l'ego. Ou le garder. C'était, non, je ne suis pas prêt à le laisser aller. Alors, il pouvait le garder comme ça. Et oui, tout ça, c'est basé donc sur un rituel qui a lieu dans cette communauté tibétaine au nord de l'Inde. Peut-être tu connais le nom, Laurence, Tashiyang, quelque chose comme ça, non, ça te dit rien. Et ce qui se passe, c'est que les moines, les moniales, font un grand cercle. Et au milieu, il y a trois poupées en terre cuite qui représentent la haine, l'avidité, je crois, et la confusion. Donc, ces moines et moniales qui sont dans le cercle autour, ils ont des props, ils ont des... Ils ont des sabres, ils ont des flambeaux, ils ont toutes sortes de choses qui représentent des qualités de l'esprit qu'on a développé ici cette semaine. Le courage, l'honnêteté, le calme, etc. Et ils font une danse autour de la confusion, la haine, l'avidité. Et ils deviennent des allégories, si on veut, là, de ces forces-là. La compassion qui bouge dans l'espace, comme ça. Et à la fin... Ils prennent les poupées en terre cuite et ils les écrasent comme ça, même je pense qu'ils les mangent pour représenter le chemin spirituel, ce qu'on fait sur le chemin spirituel. Et donc, nous, dans cette version un peu plus occidentale, les gens débarquaient comme ça. Puis je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé avec une coquille, il y avait une genre de coquille comme ça, et légèrement ouverte. La personne disait, voici, ça c'est moi, je suis caché à l'intérieur et je regarde à l'extérieur et je vous juge, personne n'entrera jamais. Et on était là, non, n'arrête pas de juger, ne sors pas, reste à l'intérieur. Comme ça, puis il y avait quelqu'un qui était arrivé, puis c'était quelque chose d'autre, qui avait des roches comme ça, qui étaient avec des cordes comme ça, et qui disaient, ça c'est moi, voici ce qui m'est arrivé à ce moment-là, et voici ce qui m'est arrivé plus tard, et voici, et ça pèse, et je ne lâcherai pas. Non, ne lâche pas, reste attaché à tous ces poids. Et donc c'était un peu comme ça, puis il y avait vraiment de toutes les couleurs, là. Et c'était très, très impressionnant à voir, très beau. Puis on voyait aussi que les gens avaient bien vu ce qui était en jeu, ce qui était... Puis comment Joanna Macy le présentait, puis comment je l'ai présenté, inspiré par elle, évidemment. Je disais, là, on va révéler les choses qu'on fait tout pour cacher, que tout le monde voit, mais qu'on fait comme si ça n'existait pas et qu'on essaie d'oublier. Là, on va les nommer carrément, là, toutes nos stratégies. On va les nommer, si vous voulez, bien entendu. Et c'était assez beau de voir que les gens voulaient, en fait. C'était leur désir secret, c'était de les nommer. Moi, je suis toujours en train de faire ça, j'arrête pas de faire ça. Et on regardait ça comment? Avec humour, avec tendresse. Alors, quel beau rapport, hein? Plutôt que de détester, de vouloir cacher, d'avoir honte, etc. Tout à coup, c'était un autre rapport à ça. En plus, c'était à l'extérieur. Hein? C'était plus moi, c'était une représentation. C'est comme si dans le processus méditatif, on reconnaît que ça, c'est là. C'est pas moi, mais c'est là, c'est en fonction. Et à travers cette sculpture ou œuvre ou poupée, c'était tout à coup, c'était à l'extérieur. Là. C'était pas exactement nous, c'était à l'extérieur. Puis on pouvait avoir un rapport à ça qui était, qui était aimant, appréciatif, humoristique, etc. Et donc tout ça, ça représente le processus méditatif pour moi. Et ça peut être intéressant de penser, ah oui, moi, ma poupée, de quoi elle serait faite? Qu'est-ce que je révélerais dans cette sculpture? Quelle forme ça prendrait? Ou... carrément, je vais le faire en rentrant à la maison. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est pour ça qu'on fait cette pratique. C'est pour que ces choses-là soient révélées et que le rapport à ceci change. Et donc, la fin du jeu, là, c'est pas l'abysse, l'annihilation. Souvent, c'est comme ça qu'on entend ces enseignements, c'est comme ça que ça nous happe. Vous voyez, c'est le cas pour vous, mais on n'a pas de jeu, pas de soi, rien qui est moi, qui est à moi, tout est impermanent. C'est comme une série de mauvaises nouvelles, puis on pense qu'on va tomber dans un gouffre sans fin. Puis on se dit, est-ce que je veux vraiment pratiquer une spiritualité où... tout s'écrase ou est avalé, et qu'il reste juste un creux vide, etc. C'est pas très sexy, c'est pas très invitant. Mais ça, c'est une conception, c'est une façon de le concevoir de notre point de vue un peu attaché, de la façon dont on a conçu les choses. Ça nous paraît comme soit une aberration ou une très mauvaise nouvelle, euphémisme. Et après, sur le chemin, peut-être qu'on va découvrir autre chose, en fait. Ce qu'on disait dans un groupe, on étant la personne qui parle, que c'est ça, le Bouddha, certaines traductions en français, on appelle le bienheureux. Le bienheureux, c'est certainement pas quelqu'un qui est tombé dans un gros gouffre, un abysse infini de noirceur, là, c'est pas ça dont il s'agit. En fait, c'est quelqu'un qui était libéré de ce qu'il maintenait enchaîné. Une image de ça, là, c'est des choses qui me reviennent d'une des rencontres de ce matin, mais une image de ça que Joseph, mon enseignant, emploie parfois, c'est d'imaginons-nous qu'on est dans un avion et qu'on décide de sauter en parachute. J'imagine, c'est un petit peu comme si on allait en retraite. Ah, quelle aventure, silence, etc. Donc, on saute et on se rend compte qu'on n'a pas de parachute. Hein, ça, pas de jeu, pas de rien permanent. Ah, il n'y a rien, tu me dis, absolument rien de fiable. Alors, il n'y a pas de parachute, alors je vais m'écraser, c'est horrible. Qu'allait-il faire dans cette galère? Hein, pourquoi je me suis inscrit à ce truc? Cette vision du monde est horrible, oppressante. Puis ça, en plus, il paraît que c'est vrai, alors ça va mal. Ça a l'air assez convaincant, comment ils en parlent. Je ne comprends rien, mais c'est convaincant. 2600 ans, ouh! Ça doit être vrai. Et donc, bon, là, moi, j'en rajoute beaucoup. Joseph le fait beaucoup plus simplement. Chacun son style. Et c'est comme si on sautait de l'avion, puis là, on se rend compte qu'il n'y a pas de parachute. Mais ce qu'on va découvrir en chemin, en fait, c'est qu'il n'y a pas de sol non plus. Alors, on ne va pas s'écraser. En fait, il y a une expérience de liberté. Ça ouvre sur autre chose. Donc, c'est qu'une image, mais ça peut aider à... L'autre chose aussi qu'il y a autour de ça, c'est que peut-être... Est-ce que vous reconnaissez quelque chose quand je dis ça, là, cette impression là, qu'on va tomber dans un gouffre si on va au bout de ce chemin, que ça va être un abysse? Oui, quelque chose de qu'on souhaite à personne, en fait. Et c'est ça, cette façon-là de concevoir les choses n'a rien à voir avec la réelle chose. C'est une conception de l'esprit. Et c'est probablement ce qu'on va découvrir en chemin. Et quand tout à coup, je sais pas comment, tout à coup on tombe dans cet espace là. Imaginons-nous que cet espace est un espace de joie, d'amour. C'est très différent, non? C'est plus l'abysse, c'est autre chose. Tout à coup, ça, le jeu tombe, mais il tombe dans quoi? Il tombe dans une joie, compassion, amour infini. Alors, c'est pas un réel problème. Mais ça, après, il faut aller voir pour soi-même là, sur ce chemin. Et pourquoi on fait ça aussi? C'est ça, ça m'apparaît être une chose extrêmement responsable à faire que de devenir conscient. On en parlait encore une fois dans un groupe. Ça m'apparaissait comme des choses que c'est ça que je voulais ramener ici, là. Des réflexions importantes. Alors, dans la voie du milieu, le bouddhisme, ce qu'on appelle là souvent la voie du milieu, c'est la voie entre des extrêmes. Et un extrême, ce serait que le libre arbitre, que je décide de tout, que tout est un choix. Ça, pour le Bouddha, c'était une vision extrême des choses. Il disait non, je ne reconnais pas ça. Il y a beaucoup de choses que je ne choisis pas. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne reconnais pas ça. Et l'autre, que tout est prédéterminé. Ce sera un autre extrême. Qu'il n'y a aucun jeu. Que tout va suivre son propre cours. Que j'ai aucune intervention possible. Aucune contribution. Que tout est déjà organisé. Que c'est donc une sorte de fatalisme. Que on va avoir la vie qu'on va avoir. Il n'y a rien qu'on peut changer. Alors ça, c'est des visions extrêmes, selon le Bouddha. Puis la voie du milieu, c'est une compréhension, une reconnaissance, une compréhension profonde que les choses sont conditionnelles. Qu'il y a un jeu de cause à effet et qu'il y a des possibilités là-dedans. Et le chemin spirituel dans le bouddhisme, c'est comme si on comprenait profondément, quelqu'un quelque part, il y a plusieurs années, a compris profondément la nature conditionnelle des choses et s'est dit, OK, créons les conditions pour qu'il y ait la fin de la souffrance. Créons les conditions pour qu'il y ait guérison. Guérison, là, je ne parle pas de maladie, mais de guérison dans le cœur. Créons les conditions pour qu'il y ait sagesse. Et c'est comme ça qu'il est arrivé avec ce chemin, parfois qu'on appelle la voie médiane ou la voie du milieu ou le chemin octuple. Et donc, c'est la pratique qu'on fait ici. C'est une utilisation cette loi des conditions, de la conditionnalité, du cause à effet, pour libérer le cœur des entraves qu'il a. Alors, on dit, ah oui, c'est ça, on a des sens. Il y a toujours de l'attention qui est donnée à quelque chose. OK, redirigeons l'attention. Plutôt que d'être focalisé sur ce qui aurait dû avoir lieu, puis qui n'a pas eu lieu, puis ce qui aura lieu, puis qui devrait avoir lieu, qui devrait avoir lieu, qui a besoin. Si ça n'a pas lieu, Alors, plutôt que de laisser l'attention aller là où elle va habituellement, redirigeons-la, cette attention-là qui est tellement forte, pour explorer la nature des choses. Utilisons les sens, plutôt que l'attention et les sens pour la recherche du plaisir, de la sécurité, d'obtenir ce que je veux. Utilisons tout ce système-là pour observer la réalité et voir qu'est-ce qui mène à quoi. Puis on fait des choses comme ici, on se dit, tiens, il y a plein de choses qu'on pourrait faire. On pourrait se dire, tiens, venons à Mudita, amenons beaucoup d'alcool, la drogue, sexe, drogue, rock and roll. Voyons si on trouve le bonheur. C'est une autre façon d'utiliser la nature conditionnelle des choses. Sexe, drogue and rock and roll. Puis voyons voir si on arrive à quelque chose qui est durablement satisfaisant. On aurait pu dire, bon, faisons 3 jours en premier de sexe, drogue et rock'n'roll, après on essaiera l'autre version. Mais bon, ça, d'autres l'ont fait pour nous, on l'a fait dans notre jeunesse. Alors on peut passer à l'étape suivante et se dire, tiens, plutôt que d'amener beaucoup d'alcool, amenons pas d'alcool. Plutôt que d'être très social, réduisons le social. Favorisons le silence, la lenteur, créons un espace où on va avoir comme intention de ne pas se blesser les uns les autres. Donc, on crée plein de conditions. Donc, on se crée des conditions qui sont favorables à la naissance de la compassion, de la bienveillance, de la patience, du courage, de l'honnêteté, de l'intégrité, du calme, de l'équanimité, de la joie curieuse, etc. Et donc, très naturellement, donc on utilise ce qu'on a, là, ce que tous les êtres humains ont autour, là, des choses qui nous sont accessibles à nous, puis on les utilise d'une façon à ce que ça mène vers plus de bien-être. Et ce chemin-là, en fait, entre autres, il est fait d'un comportement éthique. Alors, le bonheur, c'est pas genre « Ah, je vais être heureux, sois-je heureux ». Maintenant, c'est pas comme ça, c'est conditionnel. C'est ça, là, cette voie du milieu entre tout est prédéterminé ou c'est moi qui choisis. Ben non, je choisis pas d'être heureux. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est conditionnel à être heureux ou être en paix. C'est conditionnel à quoi? À un comportement éthique. Ne pas prendre ce qui n'a pas été offert, clairement. Ne pas blesser, ne pas tuer. Ne pas blesser avec la parole. Ne pas blessé avec l'énergie sexuelle, ne pas prendre des intoxicants de telle sorte que tout à coup la parole, la sexualité, tout prend le bord. Et donc voilà, c'est le Bouddha qui dit « Ah, intéressé par être heureux, voici, première étape, ça peut être la recherche d'une vie, ça va l'être, comportement éthique. » Ça, c'est quelque chose qui va créer les conditions pour qu'il y ait moins d'agitation, moins de remords, etc. Et donc, et nous, on est venu étudier ça un peu. Après, il y a une autre étape qui est la méditation. Alors, calmer le mental. Plutôt que de chercher une autre stimulation. Ah, on va faire ça, oui, on va faire ça aussi. On devrait faire ça, si on faisait ça. Plutôt que ça, le renoncement. On va renoncer un peu. Essayons de voir si par le renoncement, on pourrait accéder à quelque chose de plus plein, plus soutenant, plus... Alors, on va simplifier. On va essayer cette approche-là, de simplifier les choses et de prêter attention. D'en prêter attention, déjà, si on stabilise l'esprit qui demeure avec la respiration, avec les pas, on va probablement rencontrer, cause à effet, à un certain moment, la concentration qui vient avec le contentement, le calme, l'esprit qui a moins de choses à dire, qui s'éparpille moins et qui reste unifié, rassemblé, qui reste là, juste avec les pas. Et là, peut-être qu'on va découvrir, même si c'est pour une seconde, c'est une seconde importante, que, ah, juste là, avec cette odeur ou cette fraîcheur ou ce pas, tout à coup devient assez de réalité. Je viens de mettre la hache dans cette idée-là que je dois être plus loin, quelqu'un d'autre, autre chose, juste dans ce moment-là de présence, je peux découvrir en fait qu'il y a quelque chose de, oui, de plein. Que j'ai peut-être pas besoin de tant de stimulation que ça, ou d'être plus loin. Alors là, je viens de clarifier des choses, c'est ça la sagesse aussi. Ah, juste ça. Puis même ça, c'est bancal, là. Je suis assis là, je suis peut-être pas complètement léger et aligné, c'est peut-être un peu comme ça, un peu inconfortable, mais c'est bien. L'esprit, donc, qui n'est pas dans l'agitation, l'éparpillement, le désir d'autre chose. Ah. Donc, on clarifie les choses, on crée les conditions pour pouvoir toucher à des formes de bien-être qui sont peut-être qui viennent de l'intérieur. Plutôt que notre plaisir, que ça vienne de l'extérieur, la stimulation, le genre, que ça demande beaucoup de ressources, de temps pour, je sais pas moi, acheter une grande télé, un grand sofa, très confortable. Puis là, c'est pas assez. Il faut aussi aller en voyage. Puis c'est pas assez non plus. Il faut aussi ceci, cela. Là, on découvre qu'il y a peut-être une source intérieure. Une source intérieure. En termes de crise climatique, c'est bienvenu, ça. Découvrir que ça peut venir de l'intérieur. Et donc, on clarifie les choses. Et on se donne accès, tranquillement, cause à effet. On crée les conditions pour découvrir qu'est-ce qui est aidant. Alors, la méditation, juste ça, l'unification de l'esprit, c'est déjà énorme. Même si ça dure juste quelques moments ici et là. Oui, c'est révolutionnaire là, de découvrir qu'un pas peut être assez de réalité. Qui pourrait dire ça, hein? On va chercher n'importe quel piéton qui est déjà en train de faire des pas. Et on dit, est-ce qu'un pas peut être assez? Ah non, il faut ceci, il faut cela, il faut ça. Ça me prend quelqu'un d'autre dans ma vie, ça me prend telle autre chose, tel statut social, tel... Puis nous, on a la chance de découvrir que peut-être un pas, c'est amplement. Alors, ça. Et ensuite, dans le développement de la sagesse, on va découvrir, alors, qu'est-ce qui cause la paix? Quelles conditions peuvent amener la paix intérieure? Une sorte de relâchement. En anglais, il y a cette belle expression. Je suis sûr qu'elle peut être aussi belle en français, mais malheureusement, j'ai été exposé à plusieurs des enseignements en anglais. Mais on parle de « sure heart's release ». L'ouverture certaines du cœur. Quelque chose comme ça. Alors, la compréhension. Alors, pour le Bouddha, il semble que la compréhension profonde, vipassana, profonde, de la nature impermanente des choses, que rien ne peut être véritablement sien, soit possédé, que rien n'a la capacité de satisfaire profondément, durablement, que les choses sont légèrement bancales parce que changeantes, qu'une compréhension profonde de ça est la cause centrale, principale essentielle pour trouver la paix. Et donc le chemin sur lequel on est ici cette semaine, ça utilise les circonstances pour créer les conditions soutenantes pour qu'il y ait la sagesse. Alors ne pas dire « Ah, j'aimerais ça être sage, s'il vous plaît » ou « Combien ça coûte ?» La sagesse, combien? Très, très cher. Très, très cher. Tu me donnes 10 000 dollars américains. Et en 3 jours, tu vas avoir toute la sagesse. Non seulement la sagesse, mais en plus le pouvoir d'attirer vers toi tous les objets que tu désires. Bon, je me suis perdu un peu. Alors, il y a... Bon, toute l'idée derrière ça, encore une fois, c'est d'utiliser les... le Bouddha suggère que les choses sont conditionnelles et que en créant les conditions, il va y avoir le développement de la sagesse, l'accès à la paix, libération, etc. Et dans ce chemin-là, ce dont on parle, quand on parle de... Parfois, on parle de 3 formes de protection. C'est un peu ce que je viens de nommer là. Je peux renommer à nouveau avec cette liste des 3 protections. On va dire la première protection pour protéger son bien-être, peut-être, celui des autres. La première forme de protection, c'est un comportement éthique. Alors, faire attention à ses gestes, ses paroles, pour ne pas blesser, dans le but de guérir les relations, dans le but aussi d'être bien au présent, d'être bien dans le futur. Alors, un investissement dans son bien-être, c'est de ne pas cacher la vérité, de ne pas tromper. Alors ça, c'est la première forme de protection. Puis la façon dont je le comprends, que j'aime bien, pour moi, qui est rassurant, c'est de me dire, OK, j'ai pas tout fait le travail, il y a encore toutes sortes de choses qui... La haine, la colère, je m'agrippe à toutes sortes de choses... Et je vais mettre une ligne, je vais tirer une ligne, reconnaissant qu'il y a encore du trouble là-dedans, je vais tirer une ligne, je vais dire, ça ne va pas dépasser ça, ça ne va pas sortir, aller vers l'autre. Alors peut-être que je vais être très en colère, mais je ne vais pas abuser de quelqu'un d'autre verbalement. Alors, je mets cette ligne-là, c'est une reconnaissance que tout le travail n'est pas fait, mais que je vais au moins protéger les autres et me protéger là, de l'effet de... des gestes ou des paroles. Alors, cette prise, là, cet engagement vers les préceptes, de ne pas blesser intentionnellement les autres. Et donc, ça, c'est la première forme de protection pour soi-même et pour les relations. La deuxième forme de protection, c'est ce à quoi je faisais référence tout à l'heure, la concentration, contentement, l'esprit qui est demeure avec le souffle ou avec l'air, la température, le corps. Quand il y a un véritable contact comme ça, dans ce moment-là, il n'y a pas d'avidité, il n'y a pas de haine. Quand il y a un véritable contact avec quelque chose qui se passe, les portes se ferment sur vouloir autre chose. Et donc à ce moment-là, momentanément, même à l'intérieur, il n'y a plus de trouble. Momentanément. Je me souviens avec Sayadaw Upandita, quand il donnait cet enseignement, il faisait répéter à tout le monde. Alors, quand il y a la concentration, l'unification de l'esprit, le calme ou la joie ou l'extase qui est connue dans ces moments-là, c'est quelque chose de momentané. Là, tout le monde devait répéter plusieurs fois momentané pour ne pas rester accroché là-dessus. Il y a juste ça, je veux juste être en retraite, en silence, comme ça. Non, ça fonctionne pas comme ça. Alors des fois, il y a un moment d'accalmie où quelque chose s'ouvre comme ça. Il y a juste la présence à On est debout devant la montagne, puis oups, tout à coup, il n'y a plus de soucis comme ça. Alors ça, c'est momentané. C'est très bon. C'est une forme de protection de l'esprit. Ça, c'est le deuxième niveau de protection, ce qu'on appelle souvent la concentration. Puis le troisième niveau de protection, c'est ce qu'on appelle la sagesse. Et là, Sayadaw Pandita disait « déraciner ». Déraciner. Alors là, on va aller déraciner la méprise. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va comprendre profondément la nature impermanente des choses, que les choses ne peuvent pas appartenir, nous appartenir, appartenir à un certain je, que les choses ne sont pas satisfaisantes. Quand on comprend ça profondément, il ne peut plus y avoir l'avidité. Ce n'est pas une possibilité. Si on comprend que les choses ne sont pas satisfaisantes et échappent et ne peuvent pas être possédées, comment est-ce qu'on pourrait avoir de l'avidité, vouloir posséder quelque chose? On sait que c'est impossible. Comment on voudrait vouloir posséder quelque chose pensant que ça va être satisfaisant? Impossible. Parce qu'on sait que ça ne sera pas satisfaisant, on sait que ça ne peut pas être possédé et on sait que ça va s'échapper. Si on comprend ça profondément, ce qu'on appelle l'éveil, la libération, l'avidité ne peut pas naître dans ce champ-là, dans cette psyché-là. Parce que c'est seulement dans la méprise qu'il peut y avoir cette façon-là de s'accrocher. Quand on pense que je peux posséder, quand on pense que je peux garder, quand on pense que ça va être satisfaisant, là, on s'accroche. Mais si on sait que ça, c'est pas possible, l'esprit ne va pas être porté à s'accrocher, il ne pourra pas s'accrocher. Et ça, c'est là, ce qu'on appelle la sagesse. Insight, vipassana, ou l'éveil, la libération. Et nous, ben, c'est ce qu'on fait ici cette semaine. On essaye de s'approcher très humblement, tranquillement, de cette compréhension accrue de la nature impermanente des choses. La façon dont ça fonctionne souvent, c'est l'image qui est utilisée de je pense dans le Visuddhimagga, c'est le bateau qui est accroché par une corde, attaché par une corde au quai. Et la corde frotte doucement sur le bord du quai, comme ça. Vous connaissez cette image, je la répète souvent. Alors ça frotte très très doucement, l'air de rien. Quand tu regardes, tu te dis « Ah, oh, il ne se passe rien ». Ça frotte, ça a l'air de rien. Ça, c'est ce que nous on fait ici. Marche, assise, on reste au contact. Puis il y a cette légère friction de l'attention contre la réalité, comme ça. Ça fait comme ça. Puis un moment, après quelques saisons peut-être, tout à coup, boum, le bateau est libéré de la corde, du cordage. Et comment ça a eu lieu? C'était pas un moment dramatique. C'était juste cette application-là de la présence. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On reste présent. Le corps se lève, descend l'escalier, présence. Enfile le manteau, présence. Ouvre la porte, reçoit l'air frais. Entend les sons des pas dans la neige. On reste présent, marche et retour. Vague d'ennui mortel. Vague d'ennui mortel, on reste présent. Tout à coup, ça disparaît. La cloche sonne, on reste présent, on reste présent. Puis un moment, peut-être cette semaine, peut-être la semaine prochaine, ou plus tard, où tout à coup quelque chose comprend. Ah oui, j'ai tellement été là au contact, j'ai vu les choses apparaître, l'escalier, la porte, les bottes, les sons dans la neige, l'ennui. J'ai vu toutes ces choses passer. Passer, puis là tout à coup il y a une sorte de joie douce ou de compassion. Ah oui, c'est ça la nature de la réalité, les choses arrivent, disparaissent. Et l'équanimité. Alors certaines choses sont plaisantes, d'autres déplaisantes, mais tout ont en commun d'être éphémères. Et là, tout à coup, le regard, c'est ce qu'il considère. C'est comme ça qu'il est en lien avec les choses. Quelque chose apparaît et Restons attentifs, on va voir se transformer, disparaître. La bonne entente. Tout à coup. Le pardon, je sais pas quoi, n'importe quoi. Comme dans cette histoire d'équanimité, pour moi, je l'entends un peu comme ça, mais je me souviens, j'ai entendu ça dans une des premières retraites, puis je pense pas que ce soit même bouddhiste, peut-être, mais je sais pas si vous connaissez peut-être cette histoire où quelqu'un dans un autre pays lointain, sur un autre continent, une personne... à la campagne, dans une contrée éloignée. Comment ça commence? Je ne me rappelle pas comment ça commence, mais en tout cas, ils sont assez pauvres. Et ils ont juste quelques chevaux. Vous la connaissez? Et là, à un moment donné, la clôture se brise et tous les chevaux partent. Quelque chose comme ça. Je ne sais pas si ça commence comme ça. Peut-être que je rajoute un premier. Non, je pense que c'est pas ça l'histoire. Je me suis lancé dans un truc. Qui veut raconter cette histoire? Personne ne la connaît. OK. Ah oui, c'est ça. Il y avait un cheval. Ils étaient très pauvres, ils avaient un seul cheval, évidemment. Et la clôture se brise et le cheval part. Et là, tout le monde, les voisins, disent « Ah, pauvre vous, petite famille, ils sont seulement que deux, un parent, un enfant. Pour vous, vous avez perdu la seule chose que vous aviez précieuse, la seule valeur que vous aviez, votre cheval est parti, pauvre vous. » Et le parent, assez sage, dit « Ah, malchance, bonne fortune, on verra bien. » Tout à coup, le cheval revient, avec toute une horde de cheval, c'est ça, hein? Et là, tout à coup, tout le monde au village, « Ah, mais c'est incroyable, quelle bonne fortune! » Puis là, le parent entrait, dit, « Bonne fortune, mauvaise fortune, voyons voir, on verra. » Et l'enfant se met à entraîner les chevaux, et là, tombe, et... c'est ça qui arrive?
Brise la jambe.
Oui, ça, brise la jambe. C'est un travail d'équipe. C'est une co-création. Et là, tout le monde dit, « Ah, mon Dieu, votre enfant, votre seul enfant qui s'est brisé les jambes. Quelle mauvaise fortune, quelle malchance. Chance. On verra. » Tout à coup, la guerre éclate dans le pays. Toutes les jeunes personnes sont pris pour aller à la guerre. Et comme cet enfant a les jambes cassées, il peut pas aller. Ah, mais quelle chance. Tous nos enfants sont partis, le ventre est resté. Alors comme ça, cette compréhension là, que les choses apparaissent, disparaissent, peuvent être perçues d'une façon, les perceptions, ça apparaît comme quelque chose d'horrible. Et puis tout à coup, oops, peut-être ça va révéler quelque chose, une opportunité. Je suis épuisé. Ça donne bien parce que j'ai dépassé mon temps d'antenne. Aïe. Alors, quelques mots sur ce qu'on fait ici, l'application dans la vie. Prenez un moment, là, juste en silence. tous les êtres, à travers leurs paroles et leurs gestes, puissent protéger les autres, tous les autres, sans exception. Que tous les êtres soient protégés par la parole et les gestes des autres. Que tous les êtres puissent être protégés. Que tous les êtres connaissent la calmie dans l'esprit, l'unification de l'esprit, le contentement, la présence simple et directe à ce qui est, puissent se nourrir de ça. Que tous les êtres comprennent profondément la nature changeante, fugace, fugitive des choses. Que cette conscience les libère, les attendrisse et leur apporte la paix. Merci pour votre écoute et votre contribution au récit. Le repas va être servi dans une quinzaine de minutes.